السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، donc on continue toujours dans nos cours sur le comportement. On était arrivé toujours dans les questions-réponses, comme vous le savez, hein. Et nous sommes arrivés à la question numéro 39, la question numéro 39 posée à Cheikh Al-Uthaymin. Naam. Donc normalement, comme il n'y a pas de nouveau pour le moment dans votre classe aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire quel livre on étudie et quel chapitre nous sommes. Je pense que ça vous maîtrisez maintenant. Question numéro 39. Quand Allah Ta'ala dit « De tous les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. » De tous les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. Tayyib. Je vérifie juste quelque chose rapidement. De tous les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Taïb. Réponse du Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah. Ce sont les savants dont le savoir les a conduits à la crainte d'Allah. Donc on a une première faïda, hein, très 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 importante. c'est que Cheikh Al-Uthaymeen, dans cette première phrase de cette première réponse, il nous dit que le ilm, c'est le ilm qui te conduit, déjà qui a conduit ceux qui craignent le plus Allah. C'est le ilm qui te conduit à la crainte d'Allah. Et comme la crainte d'Allah, coûte que coûte, faut essayer de l'atteindre, si tu veux être un vrai, c'est la base de tout. La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les savants désignés dans ce verset ne sont pas ceux qui connaissent certains secrets des astres ou des choses semblables, ou ce qu'on appelle le miracle scientifique du Coran, le caractère miraculeux du Coran dans le domaine scientifique, est quelque chose que nous nions pas, que nous ne nions pas. Nous ne nions pas qu'il y ait dans le Coran des vérités qui viennent d'être découvertes ces dernières années. Mais certains sont allés à l'extrême dans ce domaine au point de faire du Coran un livre de mathématiques. Wallahul musta'an. Ce qui est une erreur. Il ne convient pas d'exagérer dans l'établissement du caractère miraculeux du Coran dans le domaine scientifique. Ça, c'est une grosse faïda aussi, attention. Car on risque de se fonder sur des théories et les théories changent. Si nous tirons du Coran des textes en les interprétant comme étant des preuves de telle ou telle théorie, puis on s'aperçoit avec le temps que ces théories sont fausses, cela signifie que les preuves impliquées par le texte, les textes coraniques sont fausses, ce qui est très dangereux. Sachez, mes frères, que la fonction essentielle du livre, du Coran et de la Sunna est d'expliciter aux gens ce qui leur est utile parmi les actes d'adoration et les relations sociales. C'est pourquoi ils les ont exposés jusqu'au plus fin détail, y compris les règles de bienfaisance de la table, la manière de s'asseoir, ce qu'il faut dire lorsqu'on entre chez soi, etc. Est-ce que la science profane nous a apporté ces détails? Je crains que cette question des miracles scientifiques du Coran n'occupe trop l'esprit des gens, au point de leur faire oublier de ce qui est plus important, ce qui est plus important, à savoir la réalisation de l'adoration. Ici, vous avez un stratagème du shaitan qui est éclairci par Cheikh Al-Uthaymeen. C'est que le shaitan, on vous a déjà expliqué qu'il ouvre des portes du bien, c'est dans un hadith, 99 portes de bien. Il ouvre les portes de bien parce que voir des miracles dans le Coran, c'est une porte de bien. Mais regardez, derrière cette porte de bien, il y a un stratagème au point de leur faire oublier ce qui est plus important, à savoir la réalisation de l'adoration. Allahu Akbar. Car le Coran a été révélé dans ce but. L'adoration, le tawhid, subhanallah. Le tawhid. Les gens vont se chercher autre chose. Ils ont besoin d'autre chose. Allah Ta'ala a dit, je n'ai créé les hommes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa ma khalaqtul djinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Que pour qu'ils m'adorent. Concernant les savants qui étudient l'univers et qui ont fait des avancées dans ce domaine, nous devons regarder si ce qu'ils ont acquis comme savoir leur a permis de suivre le droit chemin, d'adopter l'islam comme religion et de devenir des savants musulmans qui craignent Allah. S'ils sont restés dans leur mécréance et se sont contentés de dire que ce monde a un créateur, ce qu'ils ont déduit de leur thèse, c'est une parole qui ne leur profite pas. Car quiconque sait que cet univers a un créateur, il existe trois hypothèses. Soit cet univers s'est créé lui-même, soit il a existé par hasard, soit il a été créé par Allah, subhanallah. La première hypothèse est impossible, c'est-à-dire que c'est un univers qui s'est créé lui-même. C'est une hypothèse impossible, car la chose ne peut pas se créer par elle-même. Avant son existence. Elle n'était rien, donc elle ne peut pas exister par hasard. tout être doit son existence à une harmonie, à un créateur, subhanallah, excusez-moi. Tout être doit son existence à un créateur, en plus l'existence de l'univers dans cet ordre parfait. Cette harmonie, ce lien entre les causes et leurs conséquences et ce rapport entre les êtres qui suit des normes très précises, tout cela ne peut pas exister par hasard. Ce qui apparaît par hasard n'est pas ordonné durant son existence et son évolution. Si ces créatures ne peuvent pas se faire exister elles-mêmes, ni exister par hasard, elles sont nécessairement un créateur qui est Allah, le Seigneur des mondes. À ce propos, vous savez, il y a un verset du Coran. Il y a un verset du Coran. Je ne connais pas le numéro. Il y a un verset du Coran qui témoigne, qui est un argument sur ce que vient de nous exposer Cheikh Al-Uthaymeen. Alors retenez bien ce verset pour ceux qui veulent faire da'wah. Parce que il y a des gens en écoutant ce verset, en entendant ce verset, ils se sont convertis. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Si vous voyez l'explication de ce verset, c'est exactement ce que vient d'expliquer Cheikh Al-Uthaymeen. Am khuliqu bi ghayri shay, est-ce qu'ils ont été créés de rien? Tu prends l'être humain, tu médites, et il a été créé comme ça, de rien du tout. De rien. On sait que non. Alors s'ils n'ont pas été créés de rien, première chose, s'ils n'ont pas été créés de rien, deuxième partie du verset, Am humul khaliqun, ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs d'eux-mêmes? On sait que ça, ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Et on sait qu'ils n'ont pas été créés à partir de rien. Il reste quoi comme solution? Qu'ils ont été créés par Allah. Barakallahu fiikum pour le verset. Le verset. Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Subhanallah. Donc mémorisez ce verset. Mémorisez ce verset, barakallahu fikoum, et méditez dessus. Hein, et n'hésitez pas à vous en servir pour la darwa. N'y a-t-il pas des signes pour les gens qui réfléchissent, subhanallah, hein? Wallahu musta'an. Question numéro 40. Alors, quand on voit que c'est des questions similaires aux questions qu'on a vues précédemment, on les a déjà posées. Des fois, j'ai l'impression que c'est les mêmes questions. On les passera, inshallah. Si quelqu'un enseigne les mathématiques à ses étudiants dans l'intention de plaire à Allah, sera-t-il récompensé pour cela ou non? Réponse de Cheikh Al-Uthaymeen. Si les mathématiques font partie des sciences qui profitent aux musulmans dans leur vie, et qu'en les enseignant aux gens, l'homme a l'intention de leur donner quelque chose d'utile, il sera certes récompensé pour son intention. Seulement, elles ne sont pas comme les sciences religieuses. Si les mathématiques entrent dans le domaine du licite, mubah, alors elles sont vues par la religion comme un moyen. Si ce moyen conduit à quelque chose qui profite aux musulmans dans leur vie, alors la personne qui les enseigne sera récompensée pour son travail. Selon une des règles de la charia, le licite, le mubah, est une catégorie très large, selon les cas, le licite peut devenir interdit ou réprouvé ou préférable ou obligatoire. Alors, ce qu'on peut retenir en petit résumé concernant la réponse de Cheikh Al-Uthaymeen, le début de réponse de Cheikh Al-Uthaymeen ici, c'est que déjà, comme vous le savez, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Omar al-Khattab radiallahu anhu, innamal a'mal ou binniyat, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Donc si on a une intention de même si c'est une science mondaine qu'on est en train de transmettre, mais dans l'intention de plaire à Allah, eh ben on peut être récompensé. Donc déjà, ça c'est la première faïda. La deuxième faïda que nous retenons ici, c'est que attention, ça c'est une règle, c'est un fondement. Quelque chose qui est permis, à la base dans l'islam, quelque chose qui est permis en fonction du contexte et de la situation, le permis peut devenir interdit, réprouvé, préférable ou obligatoire. Vous voyez, c'est en fonction de la situation. Naham. Cheikh Al-Uthaymeen, il va nous donner un exemple. Il va nous donner un exemple. Donc vous voyez que même dans le question-réponse, on apprend des bases, des fondements. Ne croyez pas, on apprend des choses. On apprend des choses. Surtout que nous, alhamdoulillah, vous avez quelqu'un pour vous mettre pause à chaque fois et vous dire, regardez ici, il y a une règle. Regardez ici, il y a cela. Regardez ici, c'est une mise en garde. Regardez, attention, ça, faut pas le comprendre comme ça. Voilà. Alhamdulillah. Prenons l'exemple de la vente. Elle est à la base licite, mais elle peut être parfois obligatoire, parfois interdite, parfois souhaitable et parfois réprouvée. Si quelqu'un veut acheter de toi quelque chose par laquelle il veut sauver sa vie, comme la nourriture ou la boisson, quel est le statut de cette vente? La réponse est qu'elle est obligatoire. S'il veut acheter du raisin pour en faire du vin, cette vente est interdite. Si quelqu'un ne trouve pas d'eau pour faire ses ablutions, mais trouve des gens en train de vendre de l'eau, son achat de l'eau pour faire ses ablutions est obligatoire. Ça, on le verra dans le fiqh. Effectivement, Naham. Ceci étant établi, si le licite est un moyen qui mène à quelque chose de légal, il est légal. S'il fraye le chemin à quelque chose d'interdit, il est interdit. Ça, c'est des règles dans le fiqh également. Taïb. Question numéro 41. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Peut-être vous vous posez la question. Si le licite est un moyen qui mène à quelque chose de légal, il est légal. S'il fraye le chemin à quelque chose d'interdit, il est interdit. Alors, est-ce que quelqu'un a un exemple? Aujourd'hui, on essaye de faire travailler la compréhension, l'idrak, également la perception. Qui pourrait nous citer un exemple de quelque chose de licite? Wa alaykoum assalam. Du coup, le raisin? Oui, si c'est le raisin que vous vouliez dire, c'est une très bonne réponse. Masha'Allah, Allah ybarak. Masha'Allah, ahsant. Très bonne réponse, masha'Allah. Attention, bientôt on va recommencer. Vous m'excusez, subhanallah, j'ai zappé les bulletins. L'or, ahsanti, masha'Allah. Très bien, j'ai zappé les bulletins, mais là on va recommencer les notes de participation, par exemple. Là, c'est parce qu'on n'a pas encore fait les bulletins, sinon les deux réponses là, on aurait donné des points directs. Non. La graisse d'animal, mashallah, tout à fait. C'est très bien, vous avez. Mashallah, faut faire travailler les méninges. C'est comme ça. Le parfum peut être, par exemple, si pour son mari licite, pour extérieur licite, non. Oui, mashallah, subhanallah. Allah ibarak, très bien, très très bien. Mashallah. Subhanallah. Un animal, si quelqu'un l'égorge, oui. Pour autre qu'Allah. Mashallah. Eh ben, très très bien. Félicitations à vous tous. Félicitations, mashallah. Taïb. Question numéro 41. Question numéro 41. Il y a des jeunes qui veulent étudier la médecine ou d'autres sciences, mais peuvent se heurter à certains obstacles comme la mixité et la nécessité parfois de partir à l'étranger pour étudier. Quelle est la solution à ces problèmes et que conseillez-vous à ces jeunes? Cheikh Al-Uthaymeen a répondu: Je conseille à ces jeunes de faire leurs études en médecine parce que le besoin des médecins se fait terriblement sentir dans notre pays. Subhanallah Hajib. Quant au problème de la mixité, le contact direct avec les personnes de sexe opposé peut être évité dans notre pays. Qu'Allah en soit loué, alhamdoulillah. L'étudiant doit l'éviter dans la mesure du possible. En ce qui concerne le voyage vers le pays de mécréants, je ne le juge permis que sous certaines conditions. Alors vous savez que c'est juste une faïda pour vous au passage, hein. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, si vous savez lire entre les lignes, que Cheikh Al-Othamine, il a dit l'étudiant doit l'éviter dans la mesure du possible. Il a pas dit c'est formellement interdit, t'as pas le droit. Vous savez, il y a une fatwa de Cheikh Obeid Al-Jabiri, il me semble que c'est Cheikh Obeid, oui, qui avait fait une fatwa. Il avait autorisé pour un groupe de femmes, un groupe, hein, pas une femme toute seule, un groupe de femmes d'apprendre la médecine, même si ses professeurs, c'est un homme. Il avait autorisé. Naam. Alors peut-être qu'il a vu une darora, ou peut-être qu'il voit quand c'est plusieurs femmes, c'est pas de la mixité. Wallahu a'lam. Tayyib. Ala kulli hal, quand il y a plusieurs femmes, l'homme, il aura du mal à faire des trucs bizarres. Hein. Si ça peut vous éclairer pourquoi, comment. Quand il y a plusieurs femmes, c'est très 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 rare que un homme tout seul, il arrive à faire des trucs bizarres alors qu'il y a un groupe d'une dizaine de femmes. Voilà. S'il y a une femme tout seul, le troisième sera le shaitan. Donc là, ça va être problématique. Mais en général, c'est pour ça que même les savants disent un groupe de femmes peut monter dans un taxi, pas une femme toute seule. Taïb? Etc., etc. En ce qui concerne le voyage vers le pays des mécréants, alors attention, nous on n'est pas en train de dire la mixité c'est halal, hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Hein. J'espère que vous avez bien compris. Hein. J'espère que vous avez bien compris. On est dans un contexte ici avec Cheikh Al-Uthaymeen et on est dans un contexte où il dit qu'on manque de médecins dans notre pays, etc., etc. Taïb? Alors, en ce qui concerne le voyage vers le pays de mécréants, je ne le juge permis que sur certaines conditions. Première condition, le musulman doit détenir un savoir religieux assez suffisant pour pouvoir répondre à certains arguments fallacieux, choubouhat. On vous a parlé déjà de ça. Hein. On vous a parlé, premièrement, tu dois avoir assez d'ilm pour répondre aux ambiguïtés que tu vas rencontrer dans le bled kufr. Car dans les pays de mécréants, les musulmans sont attaqués par certaines ambiguïtés afin de les repousser à apostasier, de les pousser à apostasier leur religion. Wallah al-musta'an. Ça veut dire que si tu n'as pas d'ilm, tu vas voyager. Ben je pense que vous avez dû quand même remarquer qu'énormément de gens, de awam, hein, pas des étudiants ou autres, énormément de gens qui viennent. Qui quittent le pays musulman, ils arrivent dans le bled kouf, ils tournent la veste. Alors, ce n'est pas un dénigrement, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Les savants, ils en ont parlé de ça. La fitna, elle est trop forte. La fitna, elle est trop forte. Les gens qui sont nés dans le bled kouf, eux, ils ont l'habitude. Eux, ils ont l'habitude. Donc, eux, ils ont plus de chances de. Ils ont l'habitude et justement, eux, c'est le contraire. Ils sortent de ça pour rentrer dans l'islam. Mais vous avez des gens, c'est le contraire, ils n'ont pas connu ça, donc ça fait un contraste trop fort, et ils font le contraire, ils sortent de l'islam pour aller vers le... De plus, là, ils ont cette pression sociale. Parce que s'ils ont quitté le pays, c'est pour avoir une meilleure vie, etc. Et quand ils arrivent dans le bled Kouf, les Français, ils sont malins. C'est que tu veux ta super vie. Tu veux l'Eldorado, la belle vie. Tu vas lâcher ta religion et tu vas lâcher tout ça. Tu vas t'appeler François. Si tu t'appelais, je sais pas, Mouhim, tu changes ton nom. Tu vas chanter la Marseillaise, tu vas apprendre par cœur. Maintenant, c'est comme ça. Je pense que vous le savez, il y a beaucoup de choses. Tu vas faire du koufr, c'est à peine s'ils vont te dire faut aller à l'église. Wallah al-musta'an. Bientôt, ils vont nous faire ça. Faut que tu ailles à l'église. Sinon, tu seras pas français, tu pourras pas rien avoir en France. Faut aller à l'église. Tayyib. Alors, on en est où? Ça, c'est la première condition dont parle Cheikh Al-Uthaymeen. Tayyib. Deuxième condition, il doit être doté d'une foi suffisamment forte pour être immunisé contre les désirs concupiscents. Il ne doit pas partir là-bas avec une foi faible, car il risque d'être emporté par les plaisirs mondains et tomber dans la perdition. C'est ce qu'on vient de vous dire, hein. Indirectement. Donc attention à la foi. Le cheikh, il nous dit qu'il faut avoir une foi forte, parce que il y a de la fitna dans les bleds kouf que souvent dans les pays musulmans, c'est une fitna peut-être qui peut exister mais qui est cachée, mais elle est incomparable au bled kufr. Elle est incomparable. Elle est incomparable dans les pays musulmans au bled kufr. Naam. Troisième condition. Donc toi, si tu as une foi faible, tu vas arriver là-bas, c'est fini, tu vas tout lâcher. La pression, elle est trop forte. 500 euros pour toi au bled, ça fait... Ça fait 30 millions. Façon de parler, hein. Ça fait 30 millions. Allahu Akbar. Hein. Ça fait 50 millions chez nous en Algérie. Voire 60. À peu près, hein, dans le change, à peu près. Hein. 60 000 dinars. Non, 60 millions, hein. Mouhim, j'ai un peu oublié les chiffres du bled. Al-Mouhim, ça fait des grosses sommes. Donc ta tête, elle tourne. Oh, 500 euros. 500 euros. On m'a juste dit, prends la palette d'alcool là et va la. On me demande juste de mettre des palettes d'alcool dans un camion. 500 euros. Oh, lolo, lolo. Il a oublié que c'est haram. Il a oublié la fitna des femmes. Il a jamais senti du parfum. Il va juste sentir le parfum. Ça y est, c'est comme une mélodie du shaitan. Ça y est, il est parti. En fait, c'est pas 10 000 dinars. 500 euros. Ce serait pas 100 000 dinars. 10 000 dinars aujourd'hui, c'est 50 euros. Vous en pensez quoi? 10 000 dinars algériens aujourd'hui, ça fait 50 euros. 50, un peu plus. Hein. Alors, Abdullah Hafiz, il nous dit oui, c'est ça. Barakallahu fik, Cheikh Abdullah. Voilà. 500 euros, c'est 1 000 euros, je crois. 50 euros, c'est 10 000 et quelques dinars. Voilà, 10 000 et quelques dinars, un peu plus. Voilà. Bon, c'était juste pour vous donner. J'ai parlé de l'Algérie parce que, voilà. Mais il n'y a pas que l'Algérie comme pays musulman, vous le savez. On est. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Rassurez-vous. Rassurez-vous bien comme il faut. Nous, dans notre cœur, c'est l'islam. Hein. Les polémiques, les gens qui désobéissent à Allah en se divisant entre musulmans, nous, ça nous intéresse pas du tout. Surtout à l'Institut, on n'est pas là pour. Donc voilà, la prochaine fois, je dirais le Rial, c'est encore mieux. Hein. Mashallah. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les musulmans s'unissent le plus tôt possible sous la bannière du tawhid. dans l'obéissance à Allah, comme le dit Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, et cramponnez-vous tous au tawhid, tous ensemble, les frères de toute race, tous les musulmans, et ne vous divisez pas, tous les musulmans, toute race, toute couleur, ne vous divisez pas. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Amin, amin. Amin. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on est loin. Wallah al-musta'an. Vous savez que c'est de la jahiliya tout ça. Vous connaissez la jahiliya, l'époque pré-islamique. Tout ça, c'est de la jahiliya. De la jahiliya. On revient à la jahiliya. C'est radib quand même. Bon, alhamdoulilah, c'est pas tout le monde qui tombe dans le piège du shaitan et des sionistes. Par la grâce d'Allah, tout le monde ne tombe pas dedans. Naham. Taïb. Alors, troisième condition, il faut qu'il ait vraiment besoin d'aller à l'étranger. C'est-à-dire dans le cas où la spécialité qu'il veut suivre ne s'enseigne pas dans un pays musulman. Moi, personnellement, j'aurais conseillé à quelqu'un, s'il était branché par la médecine, le dernier pays, c'est la France. Je pense qu'il y a des gens, ils sont plus aptes de parler de ça, de ce domaine. C'est leur domaine que moi. Mais il y avait même une sœur du bled, une amie de la famille, qui, je crois qu'elle doit être en dernière ou avant-dernière maintenant, année de médecine. Elle devait venir dans un pays et quand elle a vu le hal de la France, elle dit c'est pas la peine. Même nous, on lui a dit c'est pas la peine. Non, je parle pas du niveau d'études, je parle de. C'est des ados. Ils vont lui faire la misère, une sœur qui est. Ils vont lui faire la misère, ils vont faire exprès. Ils vont lui faire la misère. Wallahu a'lam. Hein. Wallahu a'lam, c'est ce que je pense. C'est cette image que j'ai. Hein. Je pense pas qu'ils vont lui faire le tapis rouge. Hein. Wallahu a'lam. Taïb. On dit pas qu'ils sont tous comme ça, attention. On ne dit pas qu'ils sont tous comme ça, mais si tu tombes sur un seul adou qui va te faire la misère, ben c'est suffisant. Et la France, elle est connue pour ça. J'ai connu une personne qui étudiait dans une des plus grandes écoles de France, en classe de prépa. C'est une sœur hein, de ma famille, hein, qui était en prépa, en sciences. En prépa, ils choisissent les meilleurs élèves. Hein. Les meilleurs élèves. C'est une sœur. Elle est tombée sur un ou deux. Il y a des gens qui l'ont aidée. Ce n'était pas des ados. Ils l'ont bien aidée. Mais elle est tombée sur des ados. Et ben, ils lui ont fait une des meilleures élèves de France. Hein. Ce n'est pas du lycée de France. Elle a été obligée d'arrêter. C'était des ados. Ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Accusée de tricher. Accusé de tricher. Et je vous témoigne, hein, c'est quelqu'un de ma famille que je connais, hein, que c'est le mensonge, je ne connais pas, le tricher, je vous assure, hein, tricher impossible. Et il a fallu qu'elle ramène des témoins, il y a des gens qui sont venus témoigner, même des gens qui sont pas musulmans, parce que voilà. Elle a réussi à s'en sortir. Des professeurs, je te mettrai jamais un 20. Une fois un professeur comme ça, je te mettrai jamais un 20. Je ne sais plus s'il lui a dit avec ton hijab ou je ne sais pas quoi, Mouhim. Un ado, ça suffit. Alors on ne dit pas qu'ils sont tous comme ça, puisque elle nous avait confié qu'il y avait un professeur, elle doutait même qu'il était musulman. Mais Wallah al-musta'an, hein. Il lui aurait laissé, elle serait peut-être venue la première en France. Hein. La première en France, peut-être une des premières, mais ils vont jamais laisser une musulmane. Wallahu al-musta'an. Alors, il y a des commentaires, il faut que j'arrive à mettre les. Alors, concernant. La plupart sont aigris, ils ne veulent pas que tu sois diplômé. Ça, c'est clair. Vous savez que moi-même, hein, je devais être diplômé à l'époque, faire des formations dans il y a plus d'une vingtaine d'années, hein, juste par rapport à la religion, ils ont tout fait pour que je sois. J'ai perdu mon travail. Hein. Mais alhamdoulilah, ça a été un bien, c'est là que je suis parti au Yémen. Concernant la médecine pour la femme, c'est délicat car elle a des patients masculins. Oui. Barakallahu fikum, mashallah. Que ce soit au bled ou ici. Que ce soit au bled ou ici, non. Naham, naham. Malheureusement, le bled, de ce que j'ai pu. Donc, moi, je vous le dis, hein, je vous le dis. Après, je ne veux pas généraliser, mais j'ai une mauvaise expérience. Hein. Au bled, j'ai une mauvaise expérience. Hein. J'ai côtoyé un peu le milieu médical. Ils se croivent en France. Hein. C'est malheureux, mais ils se croivent en France. Hein. Wallah al-musta'an. C'est pareil. Hein. Une fois, quand l'épouse elle avait accouché, j'avais pas autorisé. J'avais réussi, par la grâce d'Allah, elle avait une chambre toute seule. Parce que là-bas, c'est 5-6 dans une chambre. Tout le monde vient, il regarde ta femme, normal. Wallah al-musta'an. J'avais réussi, elle avait une chambre toute seule. Et il y a des hommes, médecins, tout ça, qui veulent, sans frapper, ils venaient, ils ouvrent la porte, ils rentrent normal. Donc ça est très dur, ça avait été très dur. Hein. J'avais eu des gros accrochages avec eux. À l'époque, j'étais un peu plus jeune, donc j'étais un peu plus, j'utilisais pas trop la sagesse. Puis avec eux, ça marche pas. Je leur avais dit, y a même le président de la République, il rentrera pas dans cette chambre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, mais je suis dans mon hôpital. Wallah al-musta'an. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs. Bon, il y a une quinzaine, vingtaine d'années à peu près. Hein. On a quand même une mauvaise expérience. Voilà. On va pas tout déballer, mais je pourrais vous ramener des preuves et des preuves que, peut-être pas dans l'absolu, mais même au bled, il se croit à l'hôpital, il se croit en France. Il se croit en France. Wallahu a'lam. Al-muhim. On va continuer. Si ces trois conditions sont remplies, l'étudiant peut partir. Si une de ces conditions fait défaut, qu'il renonce à son voyage. Car la préservation de sa religion est plus importante que la préservation de toute autre chose. Taïb. Alors. Question numéro 42. On constate que beaucoup d'étudiants en sciences religieuses n'essaient pas de maîtriser les règles de la langue arabe, malgré son importance. Que pouvez-vous dire à ce sujet? La compréhension de la langue arabe est importante, qu'il s'agisse des règles de la syntaxe ou des règles de la rhétorique. Toutes ces règles et d'autres sont importantes, mais du fait que nous sommes des Arabes à l'origine, qu'Allah en soit loué, nous pouvons l'apprendre sans recourir à ces règles. Seulement l'homme qui veut se perfectionner dans la langue arabe doit connaître ses règles. Pour ma part, j'incite à apprendre toutes les règles de la langue arabe. Mashallah. Donc vous voyez bien, le cheikh il l'a dit lui-même, il parle pour des arabophones. 43, question numéro 43. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce le fait de se consacrer à la prédication ou de se consacrer à l'apprentissage de la science religieuse? L'apprentissage. Réponse de Cheikh Al-Usaymin. Alors, la dawa ou le talibul ilm? L'apprentissage de la science religieuse est primordial. L'étudiant en science religieuse peut tout à fait prêcher tout en apprenant. Eh oui. D'ailleurs, il est possible qu'il se charge de la prédication alors qu'il ne détient pas un savoir religieux. En effet, Allah Ta'ala a dit, telle est ma voie. Ô Mohammed, dis, ô Mohammed, qul hadihi sabili, telle est ma voie, j'appelle les gens à Allah dans la clairvoyance. Comment concevoir l'existence d'une prédication sans science? Aucun prédicateur n'a prêché sans science, et celui qui appelle à Allah sans détenir un certain savoir religieux, Allah ne lui accorde pas son aide providentielle. Il ne réussira pas dans sa mission, subhanallah. Ah, c'est clair, hein? On ne peut pas être plus clair. Naham. Gardez cette fatwa si un jour vous en avez besoin. Si un jour vous en avez besoin pour répliquer ou autre chose, gardez cette fatwa, ne l'oubliez pas. Question numéro 44. Si le problème qu'on rencontre avec l'apprentissage du savoir est l'oubli, quels sont les moyens qui aident à capter et à mémoriser le savoir? Parmi les moyens les plus efficaces qui permettent de capter le savoir, c'est-à-dire de retenir le savoir, de mémoriser, de le garder, le fait de se servir de ce qu'on a appris pour suivre le droit chemin, c'est-à-dire le mettre en pratique. La pratique fait partie de la mémorisation. Allah Ta'ala nous dit, quant à ceux qui se mettent sur la bonne voie, Allah les guide encore plus et leur inspire leur piété scrupuleuse. En agissant en fonction de ce qu'il sait, le savant reçoit plus de savoir et de la taqwa lui en est inspirée, c'est-à-dire la dévotion et la crainte pieuse. Eh oui, là on voit une fois de plus l'importance de la pratique. L'importance de la pratique. L'étudiant doit concentrer son cœur sur le savoir de sorte qu'il ne s'occupe pas d'autre chose. Je vais le répéter trois fois, Inch'Allah Ta'ala. L'étudiant doit concentrer son cœur sur le savoir. Sur la savoir, bon. De sorte qu'il ne s'occupe pas d'autre chose. L'étudiant doit concentrer son cœur sur le savoir de sorte qu'il ne s'occupe pas d'autre chose. Son souci et sa préoccupation est d'apprendre le savoir religieux. La révision régulière de ce qu'on a appris, la révision régulière, pour ne pas oublier, la révision régulière. Le prêche, c'est une sorte de révision. Le prêche, la da'wa, la transmission, c'est une très très bonne forme de révision. Il se consacre à l'apprentissage du savoir, il ne doit pas s'intéresser au savoir quand il a du temps libre seulement. C'est pourquoi on dit, donne-toi tout entier au savoir pour qu'il te donne une part de lui. Retenez, barakallahu fix, une parole très propagée chez les savants. Très, très, très propagée cette parole chez les savants. C'est pourquoi on dit, donne-toi tout entier au savoir pour qu'il te donne une part de lui, une part. Car si tu ne te donnes que partiellement à lui, il ne te donnera rien. Allahu Akbar. Le plus possible, talibul ilm. Le plus possible. Wallahu musta'an. Il faut se consacrer à l'apprentissage du savoir. Allahu Akbar. Jour et nuit. Et pour le préserver, il faut discuter de ces thèmes et le mettre en application. Allahu Akbar. Subhanallah. Peut-être que dans le futur, peut-être, hein, faites des doigts, on va faire des invocations, peut-être que dans le futur, on essaiera d'ajouter encore des créneaux de cours dans la journée. Vous allez peut-être dire, en ashbar du oustaz, là, khlas. Ça y est, on a shbar. Shbar en arabe, ça veut dire on est rassasié, c'est bon. Mais peut-être que dans le futur, si Allah nous facilite, on rajoutera des créneaux dans la journée. Pas des nouvelles matières. Encore un cours de tawhid, encore un cours de comportement, un cours de fiqh. Wallahu a'lam. Tayyib. Non, ça sera quand j'aurai plus la Jamira. Tant que j'ai la Jamira, je ne peux pas le faire dans la journée. Question numéro 45. Alors, par rapport à la question numéro 44, barakallahu fiikum, il est possible que certains, il y a une faïda à tirer, c'est que peut-être que certains vont se dire, Subhanallah, par rapport à ce que Cheikh Al-Uthaymeen a dit, mais on est super loin. C'est vrai. Nous-mêmes, on est super loin. Jour et nuit. Étudier jour et nuit. C'est ça, normalement. C'est ça, normalement. Mais voilà. Ça nous donne une fourchette de notre situation. C'est mieux que rien, hein, mais voilà. Question numéro 45. On constate un certain laisser-aller et un manque de sérieux chez les étudiants en sciences religieuses. Ce qui a des répercussions sur leur acquisition du savoir. Quels conseils leur donneriez-vous, votre éminence? Réponse de Cheikh Al-Uthaymeen aux étudiants de déployer tous leurs efforts dans l'apprentissage de la science, afin de bien saisir et de pénétrer les connaissances avec l'effort et l'apprentissage graduel des sciences religieuses. Celles-ci sont facilement assimilables s'enracineront dans leur esprit et ils les maîtriseront parfaitement. Ô vous les étudiants, si vous faites preuve de négligence et de manque de sérieux, vous accumulerez du retard. Faites gaffe à ça. Attention. Le shaitan, il en a eu plus d'un comme ça en général dans l'étude de la science, mais même à l'institut, il y en a, ils se sont fait avoir comme ça. Ils étaient super bien partis. Et regardez ce que dit Sheikh Al-Uthaymeen. Regardez comment le shaitan a des gens, regardez comment il leur fait. Faites très attention. Ô vous les étudiants, si vous faites preuve de négligence et de manque de sérieux, vous accumulerez du retard, vous serez encombré de cours et vous serez non seulement incapable de les assimiler, mais d'en avoir au moins une idée. À ce moment-là, tout regret ne vous sera d'aucune utilité. Ça peut même être une porte après pour arrêter. Allahu Akbar. Attention. Hein. Taïb. Alors, il y a encore une question. La dernière, numéro 46, qu'on va faire aujourd'hui. Question numéro 46. Nous sollicitons votre éminence de bien vouloir donner des conseils à ceux qui travaillent dans le domaine de l'enseignement, dans l'espoir qu'Allah en fasse profiter les gens, qu'Allah vous accorde tout le bien. Réponse de Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. En ce qui concerne les enseignements, la compétence majeure qu'ils doivent avoir, c'est qu'avant qu'ils n'arrivent en classe et d'être face à leurs étudiants, ils doivent maîtriser parfaitement et fermement les matières qu'ils leur dispenseront. Sinon, les questions que leur posent les étudiants et les discussions qu'ils engagent avec eux risquent de les mettre mal à l'aise. Le solide savoir et la vigilance de l'enseignant sont des ingrédients sûrs de la construction de la personnalité des élèves. Pour bien former un élève, la profondeur du savoir de l'enseignant n'est pas moins importante que sa vigilance. Naham. Un enseignant qui manque de savoir peut être vite déstabilisé par les questions de ses élèves et perd ainsi de sa valeur à leurs yeux. S'il leur donne une fausse réponse, ils ne lui feront plus confiance par la suite. S'il les gronde à chaque question et chaque discussion, ils ne s'entendront pas avec lui. Il est en effet nécessaire pour l'enseignant de détenir le savoir qu'il faut, d'être bien préparé à l'avance et d'être patient. L'enseignant qui détient un savoir ancré dans son esprit et stable dans son cœur répond facilement et naturellement aux questions qui lui adressent ses élèves. Sinon, il se trouvera dans l'une des trois situations précédentes, l'hésitation, la réponse fausse et la réprimande, qui sont incompatibles avec l'éthique du métier de l'enseignant. En plus de connaissances exactes de la matière qu'il dispensera aux étudiants, il doit veiller à bien la présenter à eux en suivant la méthode la plus simple dans l'éclaircissement des significations. En émaillant son cours d'exemple et en discutant avec ses élèves le cours précédent. Quant à débiter son cours sans chercher à savoir qui d'entre les étudiants a compris et qui n'a pas compris et sans discuter avec eux le cours précédent, c'est une méthode très stérile qui ne donne pas de bons résultats. Vous voyez? Vous voyez, subhanallah? Si l'enseignant déploie ses efforts dans le domaine du savoir, que ce soit dans son acquisition ou dans sa présentation aux étudiants, il doit aussi déployer son effort en matière de dévotion. Il doit être dévoué. Il doit avoir une bonne intention et être un bon guide. Son but doit être de faire du bien à ses étudiants et de les orienter vers ce qui leur profite dans les affaires de la religion et dans les affaires de leur vie. Qu'il les traite comme un père affectueux et compatissant traite ses enfants, afin que dans son enseignement puisse avoir un impact très positif sur leur âme et leur esprit. Subhanallah, Ajib. L'enseignant doit également adopter une attitude convenable devant ses élèves. Il doit se parer de vertus nobles et observer les hautes bienséances qui traduisent son attachement au livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, de ces manières, il constitue un modèle à suivre pour ses élèves, à part ses élèves, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique. Ce que l'élève peut recevoir de son enseignant comme valeur morale et comme bienséance est plus que ce qu'il peut recevoir comme savoir. Cet impact s'explique par le fait que la moralité de l'enseignant et la noblesse de son caractère sont une image manifeste qui exprime sa réalité profonde et qui se voit à travers sa conduite. Cette image se grave alors dans le fort intérieur de ses élèves. Wallah, attention, hein. C'est adib ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin ici. C'est du lourd, hein. À l'enseignant de craindre Allah à l'égard de lui-même et à l'égard de ses élèves qu'Allah l'a chargé d'enseigner. Il doit veiller scrupuleusement à adopter un comportement noble devant eux afin d'être un modèle exemplaire. Celui qui laisse l'exemple d'une bonne action, sunna hasana, en recevra le salaire ainsi que le salaire de ceux qui l'ont imité, sans que rien ne soit enlevé de leur récompense, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Muslim. J'avertis les enseignants que malgré leur jeune âge des élèves, malgré que le jeune âge des élèves, ils ont une capacité extraordinaire à observer des détails très fins. Si l'enseignant leur ordonne de respecter une règle de conduite tout en l'enfreignant sous leurs yeux, ils vont beaucoup s'interroger sur son cas et se dire « Comment nous enseigne-t-il une vertu et nous ordonne-t-il de nous conformer alors qu'il fait le contraire ?» Ne sous-estimez pas les élèves, même s'ils sont très jeunes, car ils ont une capacité d'observation extraordinaire. Allahu Akbar, mashallah. Allahu Akbar, subhanallah. Taïb, on va quand même faire la numéro 47. Elle est courte. Question numéro 47. Un musulman en quête de savoir veut partir avec un groupe de ses frères dans la foi. Dans ce but, le problème est que son père et sa mère l'en ont empêché. Que dit la religion à propos du départ de cet étudiant pour apprendre la science? C'est une question ça qui est énormément posée chez les savants. Réponse de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. S'il y a une raison qui rend nécessaire le fait qu'ils leur tiennent compagnie, alors il vaut mieux qu'ils restent avec eux. D'ailleurs, il peut apprendre la science tout en restant avec eux. Il faut savoir que la piété à l'égard des parents passe avant le djihad pour la cause d'Allah. Or, l'apprentissage de la science fait partie du djihad, et donc la piété à l'égard des parents a la priorité sur ceux-ci s'ils ont besoin de lui. Si ses parents n'ont pas besoin de lui, et il peut mieux apprendre la science s'il part ailleurs, nul grief de partir dans ce cas, seulement il ne doit pas oublier les droits que ses parents ont sur lui en revenant, les voir de temps à autre et en essayant de les convaincre que c'est bien ce qu'il fait. S'il sait que la raison de leur refus de le laisser partir est leur répugnance à l'égard de la science religieuse, il ne doit pas les obéir dans cette affaire et il ne doit pas leur demander l'autorisation de partir à la quête du savoir. Subhanallah. Subhanallah. Comme vous le constatez, il y a un énorme profit dans les questions-réponses de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Le sujet, on est en plein dans le sujet, hein. La science, subhanallah. Tayyib. Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihad al-qadar. On va se contenter de cela pour aujourd'hui. En vous souhaitant un bon week-end, Hayakum Allah, à tous les élèves, qu'Allah vous facilite ainsi qu'à nous, et qu'Allah fasse de nous des gens du paradis. Amin. Allahumma aj'alna min ahli al-janna wa iyyakum wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka. ووفيكم بارك الله حياكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On reste à votre disposition même si c'est le week-end. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.